Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo, la justice militaire a affirmé ce mercredi détenir 3 des 4 médecins congolais accusés d'être impliqués dans l'assassinat en avril d'un épidémiologiste camerounais de l'Organisation mondiale de la santé lors d'une attaque de miliciens contre une équipe de lutte anti-Ebola dans l'est du pays. Ces médecins sont poursuivis pour terrorisme et association de malfaiteurs. Et ils sont accusés d'avoir tenu des réunions en date du 14 avril 2019 pour projeter l'assassinat du docteur Richard Valéry Muzoko Kimbung. Les médecins congolais en détention sont les docteurs Hippolyte Sangala Kisako, Aurélien Luendo Paluku et Gilbert Kasereka. Un quatrième médecin impliqué, le docteur Munda Maruitende, est hors du pays, selon un de ses confrères. Le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Kumbu Ngoma, procureur militaire de Butembo dans le Nord Kivu, a affirmé que d'autres personnes, dont au moins une femme, sont également sous les verrous dans le cadre de cette affaire. Politique en RDC maintenant, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba procède depuis mercredi à des consultations formelles en vue de la formation d'un gouvernement. Le point avec Eddy Isango.
Les délégués des CAP pour le changement, la coalition des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux du Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila ont été reçus par le Premier ministre. Ils sont invités à lui proposer 3 noms pour chacun des 65 postes prévus dans le prochain gouvernement. Les 10 août, toutes les listes seront centralisées par le Premier ministre qui les soumettra à l'arbitrage du chef de l'État. Fin juillet, les FCC et les CACH avaient signé un accord de gouvernement attribuant au pro-Kabila 42 postes ministériels contre 23 au pro-Tshisekedi. À l'issue des élections du 30 décembre, les FCC avaient gagné la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales et au Sénat, donc c'est taille la part du lion dans la future équipe. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale est en voie d'être convoquée pour le 15 août en vue de l'investiture de ces gouvernements plus de 7 mois après les élections.
Afrique de l'Ouest, au Togo, l'Assemblée nationale togolaise a adopté mercredi soir une nouvelle loi qui restreint sévèrement la liberté de manifestation publique dans le pays, officiellement pour des raisons de sécurité. Les réunions ou les manifestations pacifiques sur la voie publique et dans les lieux publics ne peuvent se tenir avant 11h du matin et au-delà de 18h, souligne la nouvelle législation qui modifie un précédent texte datant de 2011. Le Togo a été secoué par une importante crise politique entre 2017 et 2018, et des dizaines de milliers de personnes sont régulièrement descendues dans les rues pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la limitation rétroactive du nombre de mandats présidentiels. Les manifestations étaient organisées simultanément dans plusieurs sites à Lomé, la capitale, et dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Burkina Faso, la société canadienne IAMGOLD de Sakan, première productrice d'or dans le pays, la société française Bolloré Transport et Logistique et 12 personnes ont brièvement comparu mercredi devant la justice à Ouagadougou pour fraude en matière de commercialisation d'or et blanchiment de capitaux. Les précisions avec Irénée Herman Ungo.
L'audience a été renvoyée à début octobre, quelques heures après son ouverture sur demande de plusieurs parties, dont la défense et la partie civile. Vu le niveau et l'ampleur du dossier, on ne pouvait pas le retenir aujourd'hui, a rapporté l'un des avocats de IAMGOLD et SACAM, maître Mumuni Kopiho. Il faut que tous les avocats puissent prendre connaissance du dossier afin de développer les moyens de défense de leurs clients, a-t-il indiqué. La société est le premier employeur du privé au Burkina Faso, avec 2500 personnes, rappelle-t-il. Outre les entreprises IAMGOLD et SACAM, Bolloré Transport et Logistique, 12 personnes de 2 sociétés et de l'administration publique sont poursuivies pour fraude en matière de commercialisation de l'or, faux et usage de faux, exportation illégale de déchets dangereux, blanchiment de capitaux et franchises illégales.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Gambie, 2 soldats ont été condamnés hier à 3 ans de prison par une cour martiale pour avoir évoqué le renversement du président Adama Barrow. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les deux soldats, Suleiman Badji et Lamine Koudjabi, ont en outre été chassés de l'armée, selon leurs avocats, qui étudient la possibilité de faire appel. Selon Lamine Sanyang, porte-parole de l'armée gambienne, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 3 ans de prison pour diverses activités criminelles. Parmi ces activités, la création d'un groupe WhatsApp appelé « Les vrais amis » en juillet 2017. Ils sont accusés d'avoir échangé avec d'autres membres de l'armée pour renverser le président Adama Barrow, élu quelques mois auparavant. À l'époque, les deux militaires se trouvaient au Darfour dans une mission de maintien de la paix et ont été arrêtés à leur retour en Gambie en mars 2018, puis présentés devant la cour martiale de Yundum près de Banjul. Fin mai, 7 soldats gambiens ont été condamnés à 9 ans de prison et un autre à 3 ans pour tentative de coup d'État et mutinerie contre le président Barrow.
Au Nigeria, 3 policiers et 1 civil ont été tués mercredi dans le centre du pays par des soldats qui voulaient empêcher l'arrestation d'un homme soupçonné dans une affaire d'enlèvement. C'est ce qu'a annoncé la police. Les autorités précisent que les policiers étaient en train d'enquêter Aibi dans l'état de Taraba et allaient arrêter un certain Alhaji Amissou, impliqué dans une série d'enlèvements dans cet état, quand l'accrochage s'est produit. Le Taraba fait partie des états du centre et du nord du Nigeria où sévissent le banditisme et les enlèvements. Contestation au Soudan, les généraux et les leaders du mouvement de contestation se sont fermement engagés, selon un responsable américain, à faire réussir la période de transition pour l'établissement d'un pouvoir civil. Les détails avec Eric Manirakiza.
J'achève ma visite après avoir entendu de très fortes promesses d'engagement de la part de tous les gens que j'ai rencontrés, a déclaré David Hale, numéro 3 du département d'État américain, lors d'une conférence de presse hier à Khartoum. Il a eu des entretiens avec le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, des leaders de la contestation et des membres de la société civile. Les dirigeants militaires et meneurs de la contestation ont paraphé dimanche un accord prévoyant l'établissement d'un conseil souverain qui devra mener avec un parlement et un gouvernement la transition pendant un peu plus de 3 ans. L'accord doit être formellement signé le 17 août. Le Conseil souverain doit compter 5 militaires et 6 civils qui seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août. Par ailleurs, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé la fourniture de 540 000 tonnes de blé au Soudan pour répondre aux besoins alimentaires de base de la population pendant 3 mois.
Actualité aux États-Unis pour terminer, le président Donald Trump s'est rendu mercredi dans les 2 villes endeuillées par les fusillades du week-end dernier, à savoir Dayton dans l'État d'Ohio et El Paso au Texas. Une journée à la communication savamment orchestrée au cours de laquelle les manifestants ont été soigneusement tenus à l'écart. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Dans un tweet, une fois sa visite terminée, le président a blâmé les journalistes. Les médias fake news ont fait des heures supplémentaires pour me dénigrer, moi et mes 2 voyages, mais ça n'a pas marché. L'amour, le respect, l'enthousiasme étaient là, visibles de tous. Tout au long de la journée, la presse a eu un accès très restreint à ses déplacements. Son équipe de communication a relayé des photos de lui et de sa femme Melania Trump au chevet des victimes et a invoqué le respect pour les victimes et leurs familles pour justifier la distance imposée aux caméras. À El Paso, au Texas, où un jeune blanc aux motivations racistes a abattu 22 personnes samedi matin, avant d'être interpellé, M. Trump n'était pas forcément le bienvenu, lui qui pourfend régulièrement l'invasion des migrants venus d'Amérique centrale. Invasion, un mot utilisé par le tireur d'El Paso dans un manifeste mis en ligne avant son crime. Des centaines de manifestants attendaient le président américain dans un parc de 7 villes à la frontière mexicaine, en brandissant des panneaux barrés, des mentions « Vos mots ont des conséquences ». Le président a pour sa part réaffirmé que les récentes tueries n'avaient rien à voir avec lui et que ceux qui l'accusaient d'attiser la haine raciale aux États-Unis cherchaient à tirer un profit politique de leurs critiques. Des manifestants en colère avaient aussi critiqué sa venue à Dayton, réclamant des contrôles renforcés sur les ventes d'armes à feu. Les manifestants ont brandi des panneaux l'exhortant à s'opposer à la NRA, le puissant lobby des armes qui bloque toute tentative de réguler le marché des armes à feu et d'interdire les fusils d'assaut.
Actualité américaine toujours, la Turquie et les États-Unis ont décidé mercredi d'établir un centre d'opération conjointe pour coordonner la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, une mesure visant à prévenir un affrontement entre les forces turques et kurdes. Cette initiative intervient après 3 jours d'intenses négociations entre Ankara et Washington. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.